dans le cadre de l'opération Trace Mémoire d'immigration, menée par l'association Aralis avec la région Rhône-Alpes, Radio Royan propose Immigration italienne, les charbonniers. Quand on parle d'immigration italienne dans le Vercors, on a vite fait d'oublier les premières familles venues travailler à la construction des routes mythiques dans la seconde moitié du XIXe siècle. On a vite fait aussi d'oublier la vague la plus récente, vers les années 47-50, pour la construction des barrages. On a vite fait d'oublier, pour ne parler que du mouvement incessant d'immigration des spécialistes de la forêt, bûcherons et surtout charbonniers. Les charbonniers fascinent. Mi-sauvage, mi-alchimiste, maître du feu et forcément italien. Immigrés sûrement, mais migrants perpétuels aussi à cause de la saison, des chantiers. Immigrés, mais attention, à les écouter, eux ne venaient pas chercher du travail. Eux, ils venaient parce que les patrons venaient les chercher en Italie à cause de leur savoir-faire. Michel Gauthier, petit-fils de patron.
C'est mon grand-père, Gauthier, qui est né à Presles d'ailleurs, et qui est arrivé à la Balme de Rancurel à 18 ans, et qui a créé son entreprise de fabrication de charbon de bois. Et pour la fabrication du charbon de bois en meule, c'est une technique essentiellement apportée par des familles italiennes, et c'est la raison pour laquelle mon grand-père est allé chercher en Italie, dans les années 35, je pense, les familles Mousselin et Serradura, des familles Benacchio, les Fieno, des familles qui sont encore à Saint-Marcellin, puis peut-être d'autres familles d'ici, Locatelli, Zanella. Et après la Deuxième Guerre mondiale, en 47-48, Alfred Mousselin et T. Mousselin, qui étaient deux frères, et qui fabriquaient du charbon de bois avec leur père chez mon grand-père, se sont installés à Saint-Marcellin pour, à leur tour, créer leur entreprise et fabriquer du charbon de bois.
Parmi les plus fiers et sans doute les derniers à avoir travaillé en forêt, la famille Benacchio. Et attention, pas bergamasques. Les bergamasques étaient bûcherons. Eux, les charbonniers, les vrais, ils venaient de Vénétie.
Il y a eu une grosse activité économique du charbon de bois dans les Côtes, ça c'est sûr. Il y a des années, l'année qu'on était là aux Croisettes, il y avait peut-être une 25 à 30 familles de 3 à 4 enfants. Vous voyez combien on était, ça faisait une certaine de personnes, hein. Même plus. Voilà. Alors, donc, il y avait de la famille et casse-croûte zéro. De la région d'où on est, je parle d'ici, surtout d'ici, parce que vous savez que si on va plus loin dans les bûcherons, il y avait les bergamasques, c'était plutôt des bûcherons. D'accord. Donc bergamasques, c'est bergames, c'était des bûcherons. Mmh. Et il y en a ici beaucoup, Basoli, Avistadi, tout ça, voilà. Puisque nous sommes surtout des charbonniers dans notre région. Une spécialité un petit peu...
C'est un petit peu là-dessus, oui.
Si je parle doucement, pour le moment. Voilà. Donc c'était autre chose, mais c'est vrai que c'était notre région qui était comme ça.
Il y avait quand même une hiérarchie dans tous ces métiers.
Ah oui, ouais. Et encore que nous, on l'a perdu depuis quand on met avant. Elle était beaucoup plus forte en Italie. Et nous, on est là, voilà. On était ici. L'hiver, on travaillait dans les scieries. Il y avait beaucoup de scieries ici, on le sait. Hein, maintenant, il n'y en a plus. Mmh. Voilà, et on était dans les scieries, entreprise de maçonnerie, etc.
Voici maintenant l'histoire d'immigration de Flora Secco, originaire de la même région. Petite fille et fille de charbonnier. Peut-être parce que c'est une femme, ce récit montre que tout n'était pas si simple.
La famille Secco, elle est venue pour le charbon de bois?
Ah oui, oui, oui. Et à Sous, dans la Drôme.
Mais quand je dis elle est venue, moi, quand on croise les charbonniers, il y en a, ils disent on est venu nous chercher parce qu'on savait faire, oui, et d'autres qui disent nous on est venu parce qu'il y avait du boulot.
Ah non, mais ça, On est venus les chercher. Eux, ils ne sont pas venus comme ça. Ils sont venus en 1923, je crois, quelque chose comme ça. Ils sont retournés en Italie pour se marier. Et puis, une fois là-bas, ils ont vécu 2 ou 3 ans parce qu'ils n'avaient plus la possibilité de revenir. C'était question politique.
Et question politique, parce que c'était au moment de la montée de Mussolini.
Voilà,
du...
oui. Bon, et moi, je suis née là-bas. Et donc, mes parents, ils sont partis faire du charbon là-bas. Ils sont descendus dans la basse Italie, à Foggia, dans le département des Pouilles.
Comment ils sont revenus en France, alors ?
Eh bien, ils sont revenus en France, après la saison, comme tout charbonnier, la saison terminée, ils rentrent chez eux. Donc, ils sont rentrés à Solagne, où je suis née. Mon papa est parti avec moi, toute seule. Et puis je ne veux même pas raconter l'histoire parce qu'elle me ferait... Je ne veux pas la raconter. Oui, oui. Parce que j'ai mis un mois pour revenir. Il y a eu des... J'étais malade en route. Il y avait l'épidémie du croup. Il y avait une épidémie. Et je suis partie en très bonne santé. Et avant d'arriver à la frontière, à Bardonecchia, heureusement, une infirmière se trouvait dans le wagon, m'a pris dans ses bras, a dit à mon papa, prenez votre valise, préparez-vous à l'arrêt du train, suivez-moi. Et cette infirmière, elle venait en vacances à Modane. Et bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait demi-tour, elle a commandé un taxi. J'ai été hospitalisée dans un hôpital à Turin, j'y suis restée un mois. Et c'était au moment où la plupart mouraient. Et j'ai été sauvée, quoi.
Le papa, pendant ce temps-là, il a continué vers la France ou il a attendu?
Ah non, non, le papa, il devait rentrer au Cheylard. Il est arrivé au Cheylard. Il a téléphoné à mon oncle pour qu'il vienne le chercher à Modane. Parce qu'il avait laissé tout l'argent que j'avais, qu'il avait hein, pour moi. Et il avait gardé juste l'argent pour téléphoner à mon oncle. Il a attendu qu'il soit venu le chercher. Il est venu le chercher en moto, avec une petite valise. Il n'avait pas grand-chose. Hein. Parce qu'il y avait ma grand-mère au Cheylard. Mes grands-parents, ils étaient au Cheylard déjà.
Ils étaient déjà au Cheylard.
Oui, ils étaient. Et j'ai eu la chance. Un mois après... On a demandé à mon papa de venir me récupérer. Et il est venu me récupérer.
Pourquoi vous n'êtes pas resté en Ardèche? Les chantiers de charbonnage pouvaient faire changer de massif, aller de l'Ardèche au Vercors ou non? Pourquoi?
Eh bien, c'était l'usine Progul dont mon papa a travaillé, au Cheylard. L'usine Progul de Saint-Sauveur-de-Montagu.
Il utilisait beaucoup de charbon, d'ailleurs.
Oui, qui nous a envoyés ici, dans le Vercors.
Ça veut dire que l'usine Progil embauchait des charbonniers?
Ah ben, embauchait déjà. Ben, ils s'occupaient de... C'était une usine où ils faisaient du tanin, je crois, avec des châtaigniers. Ils employaient des bûcherons, quoi.
Des bûcherons, d'abord,
des
oui,
bûcherons. D'accord. Bûcherons. Je sais que... je me rappelle que mon papa, il a abattu avec d'autres bûcherons des châtaigniers. Voilà. Des forêts de châtaigniers. C'est pour ça que moi, j'en voudrais pas un dans mon jardin parce que je me faisais piquer les fesses.
Et alors, le Vercors, comment vous êtes venu par là?
Eh bien, c'est l'usine Progil qui nous y a envoyé, là. C'est M. Arnaud de la Balme qui nous a embauchés, quoi. On est arrivé. En 1943, ici, à Saint-Julien. À Saint-Julien-Vercors.
Cette fois-ci, embauché pas comme bûcheron, mais comme charbonnier.
Charbonnier. On faisait bûcheron, charbonnier. Alors, en famille, parce que c'était la guerre, et c'était le meilleur moyen pour... c'était comme ça, quoi. Moi, j'ai pas connu autre chose, hein.
Vous aviez quel âge, alors, quand vous êtes arrivé ici?
C'était en 1943. Je suis née en 27, alors ça fait combien?
Ça faisait au moins 16 ans.
Oui, 16 ans.
Alors, oui. Jeune fille, dans des lieux où on faisait. Voilà, oui, dans des clairières, oui. Où on faisait le charbon de bois. Vous étiez l'italienne, vous étiez la charbonnière, ou vous étiez comme n'importe quel jeune de Saint-Julien?
Il n'y avait pas de différence. Les gens ici, ils ont été gentils avec nous. Hein. Moi, j'en ai un bon souvenir. Hein.
Même pendant la guerre?
Oh oui, même pendant la guerre. On nous a traités des fois de sale macaroni comme tout le monde, quoi. Mais pas ici, je ne me rappelle pas ici, non. Pas ici. J'ai toujours aimé ce coin, moi, ici.
Reste qu'une fois en forêt, l'Italien était d'abord charbonnier. Malgré la dureté des conditions de vie, la mythologie refait surface.
Le charbonnier, c'était d'abord une connaissance orale. Donc on se transmettait pour faire un charbon de bois. Il n'y avait rien d'écrit, c'était tout oral. Hein. De toute façon, pour faire un charbon de bois, c'est une spécialité, ça ne se fait pas comme ça. Hein.
Alors vous savez que la quantité du charbon, il faut 400 kg de bois pour faire 100 kg de charbon.
400 kg de bois,
oui.
De charbon.
Voilà. Et nous, celle qu'on faisait là, les plus petites, on faisait 10 tonnes de charbon, mais on en faisait des jolies. Hein.
Alors tous les dimanches, on avait un épicier qui montait le casse-croûte, c'est-à-dire qu'il venait avec sa camionnette pour acheter pour nous, pouvoir nous alimenter après. C'était une fois par semaine. Et dans la semaine, c'était beaucoup la polenta. Nous avions des poules, donc des œufs. Et il y avait quelques-uns qui étaient chers pour le lait, etc. Voilà, ça c'était... parce que le premier souci de tous les bûcherons, c'était de fabriquer... Alors ils mettaient le poulailler, ils faisaient un poulailler, ils faisaient un petit jardin pour la chicorée amère,
oui, là,
le persil. Et voilà, et après le reste, ils se débrouillaient sur place. Parce qu'avec des poules, on arrive toujours un peu quand même...
avec des pommes de terre, de la polenta, des pâtes...
Ils étaient noirs.
Noir, c'est-à-dire par le charbon?
Ben
ça arrivait, bien sûr, avec leur métier. Hein. Quand il y avait la charbonnière, hein, je vous dis pas. Mais je vous dirais que charbonnier noir, il y en avait un qui était venu de Sardaigne. Alors lui, noir de nature, comme un Sénégalais, noir. Alors lui, il fallait pas trop l'approcher, il y en a qui en avaient peur de ça. Il n'était pas plus méchant qu'un autre. Mais il était noir, hein. Alors, tout noir. C'est le seul que j'ai vu de noir.
Ils étaient aussi propres, dimanche.
Ah oui, ils étaient propres. Oh, puis, ils étaient bien tenus, hein.
Ah, mais on peut vous dire, voyez, le dimanche, ça dansait, bien sûr, ça dansait sur les pas de charbon, parce que tout le monde, mon père jouait de l'accordéon, on avait beaucoup de chasse là-dessus.
Je jouais
de l'accordéon, alors donc...
Non, on voit l'accordéon avec les
petits. Mais voilà, et donc on dansait, et sur de la terre battue.
Et le maître à son chantier, au flanc de sa fournaise, dans son palais d'or.
À certaines périodes de l'année, de lentes colonnes de fumée s'élevaient des profondeurs de la forêt, annonçant la présence de ce demi-sauvage, le charbonnier. Le charbonnier est le maître du feu. Le charbonnier est maître chez soi. Le charbonnier, c'est comme la feuille, il vient au printemps et disparaît à l'automne. Le charbonnier, au bois, il ne gagnait pas beaucoup, mais au moins, il était libre.
Le charbon cuira.
En écho à ces témoignages, écoutons Philippe Anus, historien, auteur de « Je suis né charbonnier dans le Vercors », édition du Parc naturel régional du Vercors. une manière toute simple de resituer les choses.
La mémoire, finalement, c'est quelque chose qui a un peu à voir avec la mythologie, qu'un groupe dit de lui-même. Alors, ce métier de charbonnier, bah, c'est un métier un petit peu des marges, malgré tout. Aujourd'hui, en tout cas, il est perçu comme tel. Et celui qui le pratique, il est, qu'il soit membre, je dirais, natif d'un groupe villageois ou étranger, au sens étranger national, il est en situation d'étrangeté. Et il fréquente un univers, c'est la forêt. La forêt, c'est un lieu, entre guillemets, de rupture, un peu à l'écart du terroir, même si elle est profondément marquée par la présence de l'homme. Donc il y a cette idée que le charbonnier, dans nos représentations, et donc ce qui alimente aussi une certaine mémoire collective, c'est cette figure des marges. Hein. Il est en situation de semi-nomadisme, c'est un travailleur saisonnier, il passe une partie de l'année à l'écart, dans un lieu un peu étrange, il travaille la nuit. Il y a cette idée quand même que, me semble-t-il, ça c'est relativement universel. Le charbonnier, c'était déjà valable dans le monde antique, chez les Grecs. Pour les Athéniens, c'était celui qui vivait dans les collines loin. Voilà. Donc je pense qu'il porte
vous
ça.
Vous voulez dire que c'était un étranger?
Oui, en quelque sorte, celui qui vit dans la forêt, qui vit vraiment dans la forêt, pas celui qui la fréquente, celui qui vit dans la forêt, il est en situation d'étrangeté. Alors voilà, on sait que de tout temps, les Alpes, c'est un lieu de brassage intense, de circulation, de micromobilité. Et que dans le Vercors, par exemple, antérieurement à la présence des charbonniers italiens qui sont qui sont au bout de la chaîne, donc les plus proches de nous dans le temps, il y a toujours eu des différentes catégories de personnes qui se livraient à cette activité. Et moi, je vois dans les textes du XVIIe siècle, relatifs à la forêt de Coulm, par exemple, on se promène dans le terroir et dans la forêt gérée entre guillemets par la communauté de Presles. Et il est dit, il y a des étrangers. Alors ces étrangers, à l'époque, c'est des gens de Saint-Pierre-de-Chérène, de la vallée qui montent, ou des gens de Vinay. Et puis, au XVIIIe siècle, on a des gens d'Alvar. Hein, donc Alvar, bon, c'est un haut lieu de la métallurgie dauphinoise, il y a des forêts. Il y a des gens qui ont développé des savoir-faire, qui travaillent comme ouvriers, saisonniers, pour le service des maîtres de forge. Et ces gens-là, ces spécialistes, émigrent au mois d'avril, quittent les montagnes d'Alvar et vont trouver du travail dans le Vercors. Donc là, on est au XVIIIe siècle et après, c'est le processus classique de l'immigration. L'État-nation, c'est quelque chose d'assez récent. Les gens de Bergame, qui avaient quand même une technique reconnue, avaient l'habitude de franchir les grands cols alpins pour venir travailler en tant que métallurges dans l'Ouest, chez nous. Et puis finalement, un beau jour, fin 19e siècle, pour des raisons un peu compliquées de mise en dynamique des économies européennes, il y a une crise des métiers du bois. On fait appel à eux massivement, à partir de 1860, et c'est eux qui vont devenir... Et la figure du charbonnier, puis ensuite
les maîtres du charbon.
Les maîtres du charbon, mais ils sont vraiment tout au bout de la chaîne, les derniers. Ceci dit, les derniers pas tout à fait, parce que dans les périodes de crise des années noires, pendant la guerre, il y a aussi eu les Espagnols. On les oublie, hein. Donc c'est principalement des Catalans et des gens qui fuyaient le régime de Franco, qui pouvaient être des intellectuels, qui n'étaient pas forcément des professionnels du métier et qui placés dans des camps de travail. Hein, les fameux GTE, groupements de travailleurs étrangers mis en place par la République juste avant la guerre, il y avait des gens qui étaient placés dans les chantiers forestiers, des Espagnols puis des Yougoslaves. Il y a également eu donc des Allemands anti-nazis. Les derniers charbonniers dans les années 60 sur les chantiers du Piémont, du Vercors, hein, c'était des Calabrais, des Siciliens, et il y a même eu quelques Maghrébins.